Chapitre 6. Tendant à réfuter le préjugé populaire au sujet du cadeau d'un couteau de poche. La vente du mobilier dura jusqu'au milieu du second jour du sombre mois de décembre. M. Talleyrand, qui, dans ses intervalles de connaissance, avait manifesté une irritabilité qui paraissait souvent causer un retour de crise spasmodique et d'insensibilité, était resté dans cet état de mort vivante pendant les heures critiques où le bruit de la vente s'était le plus rapproché de sa chambre. M. Turnbull avait déclaré qu'il y aurait moins de risques à le laisser où il était qu'à le transporter à la chaumière de Luke, plan que l'honnête Luke avait proposé à Mme Talleyrand, pensant qu'il serait très mal que son maître fût réveillé par le bruit de cette vente. La mère et les enfants étaient restés enfermés dans cette même chambre, surveillant avec anxiété ce malade étendu sur le lit, et tremblant qu'il ne manifestât tout à coup quelque compréhension de ces sons qui frappaient leurs propres oreilles d'une manière si pénible et si persistante. Mais enfin il passa, ce temps de certitude douloureuse et de surveillance inquiète. Le bruit de cette voix aussi sèche que le coup du marteau qui la suivait avait cessé. Le piétinement sur le gravier ne se faisait plus entendre. Le frais visage de Mme Talleyrand semblait avoir vieilli de 10 ans pendant ces 30 dernières heures. L'esprit de la pauvre femme ne s'était tout ce temps occupé qu'à deviner quand ses objets favoris étaient adjugés par le terrible marteau. Son cœur s'était serré à la pensée que tantôt une chose, tantôt une autre avait été reconnue dans l'odieuse liste publiée au Lion d'Or comme lui appartenant. Et pendant toutes ces tristes heures, elle avait dû rester assise sans donner aucun signe de son agitation intérieure. De semblables moments creusent des lignes sur les visages arrondis et créent des places blanches dans les cheveux qui paraissaient naguère avoir été plongés dans un soleil pur. Déjà à 3 heures, Kezia, la femme de chambre, au bon cœur et au bon caractère, qui regardait tous ceux qui venaient à la vente comme ses ennemis personnels, car pour elle la saleté apportée par leurs souliers avait une qualité hostile, Kezia avait commencé à frotter et balayer avec énergie en maugréant contre les gens qui venaient pour acheter les affaires des autres et se permettaient de ternir le dessus des tables d'acajou que des personnes qui valaient mieux qu'eux s'étaient donné tant de peine à polir. Elle ne nettoya pas indifféremment partout, car il y aurait encore de cette abominable boue apportée par ceux qui viendraient chercher leurs achats. Mais elle tenait à ramener le salon où s'était établi ce sale fumeur de pipe, l'huissier, à une apparence de chétif confort autant que pour elle à lui donner la propreté et le peu d'articles de mobilier achetés pour la famille. Sa maîtresse et les jeunes gens y prendraient certainement leur thé ce soir-là. Kezia y était résolue. C'est entre 5 et 6 heures, au moment habituel de prendre ce repas, qu'elle monta et dit que quelqu'un demandait M. Tom. La personne était à la cuisine, et au premier moment, à la clarté imparfaite du feu et d'une chandelle, Tom ne reconnut nullement cette figure assez épaisse, mais active, de 2 ans peut-être plus âgée que lui, qui le regardait avec une paire d'yeux bleus entourée d'un cercle de taches de rousseur, et se tirait quelques boucles de cheveux rouges frisés avec une intention respectueuse. Un chapeau à fond bas, recouvert de toile cirée, et un certain dépôt de saleté reluisante sur le reste du costume indiquaient un habitué des bateaux, mais n'aidaient point la mémoire de Tom. « Votre serviteur, maître Tom, » dit l'individu aux cheveux rouges, avec un sourire perçant au travers de l'air mélancolique qu'il s'était imposé. « Vous ne me reconnaissez pas, je m'en doute, » continua-t-il, comme Tom le regardait d'un air interrogateur. « Mais je serais bien aise de vous parler un peu en tête-à-tête, s'il vous plaît. » « Il y a du feu dans le parloir, maître Tom, » dit Kezia, qui n'avait nulle envie de quitter sa cuisine au moment de rôtir le pain. « Venez donc par ici, » dit Tom, se demandant si ce jeune gaillard était un employé de Guest et compagnie, car son imagination se portait constamment vers ce point particulier et sur l'idée que son oncle Dean pouvait d'un moment à l'autre lui faire savoir qu'il y avait une place libre. Le feu brillant dans le parloir était la seule lumière qui montra les quelques chaises, le bureau, le plancher, sans tapis et l'unique table. Non, pas l'unique table. Il y en avait une seconde dans un coin, avec la grosse Bible et quelques autres livres dessus. Ce fut l'étrangeté de cette nouvelle nudité qui frappa d'abord Tom, avant qu'il regardât de nouveau le personnage éclairé par le feu, et qui lui dit presque timidement, d'une voix qui lui était inconnue, « Comment ? Vous ne vous rappelez pas Bob, à qui vous avez donné un couteau de poche, monsieur Tom ?» Le couteau de poche au manche rugueux fut sorti au même instant, et la plus grande lame en fut ouverte comme preuve irrésistible. « Quoi, Bob Jakin ?» dit Tom. Non, avec un plaisir cordial, car il se sentait un peu honteux de cette ancienne intimité, symbolisée par le couteau de poche, et n'était point sûr que les motifs de Bob en lui rendant visite fussent très louables. « Oui, oui, Bob Jakin, le même Bob que lorsque vous alliez après les écureuils avec lui, le jour où je tombais raide en bas d'une branche et que je m'écorchais pas mal le menton, mais je tins bien l'écureuil malgré ça, et c'était un mal. Cette petite lame est cassée, vous voyez, et je n'ai pas voulu en faire mettre une nouvelle, parce qu'on aurait pu me tromper et me donner un autre couteau à la place. Et il n'y a pas une lame semblable à celle-ci dans le pays. Elle est habituée à ma main, peut-être. Et jamais personne d'autre ne m'a rien donné que ce que j'ai pu avoir par ma propre adresse, excepté vous, monsieur Tom. Il n'y a que Bill Fawkes qui m'a donné le petit terrier au lieu de le noyer, et j'ai dû joliment lui en dire avant qu'il y consentît. » Bob parlait avec volubilité, d'une voix aiguë et presque vibrante, et arriva au bout de sa longue période avec une célérité surprenante, frottant avec affection sur sa manche la lame de son couteau quand il eut fini. « Eh bien, Bob, » dit Tom avec un léger air de protection, les souvenirs précédents l'ayant disposé à être aussi amical que cela convenait, quoiqu'il se rappelât fort bien la cause de leur dernière dispute. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?»« Mais non, monsieur Tom, » répondit Bob, en fermant son couteau avec bruit et le remettant dans sa poche, où il parut chercher quelque chose d'autre. « Je ne serais pas venu vers vous maintenant que vous êtes dans l'affliction, et que les gens disent que le maître pour qui j'avais la tâche d'effrayer les oiseaux, et qui me fouetta un peu en plaisantant quand il me surprit à manger les navets, ne se relèvera plus. Je ne serais pas venu à présent vous demander de me donner un autre couteau, parce que vous m'en avez donné un auparavant. Si un individu me gratifie d'un œil poché, c'est assez pour moi. Je ne lui en demande pas un second, avant que j'aie réglé son compte, et un bon service mérite du retour, tout comme un mauvais, ce me semble. Je ne redeviendrai jamais petit, monsieur Tom, et vous étiez le garçon que j'aimais le mieux, quand moi aussi j'étais un gamin. Malgré que vous m'ayez souvent malmené, et que vous n'ayez plus voulu me regarder. Il y a Dick Brumbry, par exemple, que je pouvais tanner autant que j'en avais l'envie. Mais ma foi, on se fatigue de tanner un individu quand on ne peut jamais lui faire voir ce qu'on veut qu'il voie. J'ai connu des garçons qui pouvaient rester à regarder fixement une branche jusqu'à ce que leurs yeux sortent de la tête avant qu'ils puissent comprendre qu'une queue d'oiseau n'était pas une feuille. C'est un triste plaisir que d'aller avec de tels lourdeaux. Mais vous avez toujours été fameux pour tout voir, monsieur Tom, et je pouvais compter sur vous pour tomber avec votre bâton, juste à temps, sur un rat qui courait, sur une taupe ou quelque chose comme ça, quand je battais les buissons. Bob avait sorti un sac de toile sale et ne se serait peut-être pas arrêté dans son discours si Maggie n'était entrée dans la chambre et ne lui eût lancé un regard de surprise et de curiosité, ce qui lui fit tirer de nouveau ses mèches de cheveux rouges avec un respect convenable. Mais au même instant, le sentiment douloureux de la chambre dénudée s'empara de Maggie avec une telle force qu'il domina la présence de Bob. Ses yeux s'étaient immédiatement portés de lui à la place où avaient été suspendues les étagères des livres. Il n'y avait rien maintenant que leurs traces sur le mur dénudé, et au-dessous, la petite table avec la Bible et quelques ouvrages religieux. « Oh, Tom !» s'écria-t-elle en joignant les mains. « Où sont les livres ?»« Je croyais que l'oncle Glegg avait dit qu'il les achèterait. Ne l'a-t-il pas fait ? Sont cela tous ceux qu'on nous a laissés ?»« Je suppose que oui, » dit Tom, avec une espèce d'indifférence désespérée. Pourquoi les auraient-ils achetés, quand ils ont acheté si peu de meubles ?« Oh, mais Tom, » dit Maggie, ses yeux se remplissant de larmes, comme elle s'élançait vers la table pour voir quel volume avait été sauvé. « Notre cher vieux voyage du pèlerin, que tu avais enluminé avec ta petite boîte de couleurs. Et cette image du pèlerin avec son manteau qui ressemblait à une tortue. Oh, vraiment !» continua Maggie, sanglotant à moitié, en retournant ses quelques livres. Je croyais que nous nous en séparerions jamais tant que nous vivrions. Tout nous abandonne. La fin de nos vies ne nous offrira rien qui puisse nous en rappeler le commencement. » Maggie quitta la table et se jeta sur une chaise, avec de grosses larmes prêtes à couler sur ses joues, tout à fait indifférente à la présence de Bob, qui la regardait avec la persévérance de l'animal qui voit sans comprendre. « Eh bien, Bob, » dit Tom, sentant que le sujet des livres était intempestif. « Je suppose que vous êtes venu me voir justement parce que nous étions dans la peine. C'est très bien de votre part. » « Je vous dirai ce qui en est, » dit Bob, commençant à détacher son sac de toile. « Voyez-vous, j'ai travaillé sur un bateau pendant ces 2 années, et c'est comme ça que j'ai gagné ma vie, si ce n'est quand j'étais occupé de loin en loin au moulin de Torry. Mais il y a 15 jours, j'ai eu un fameux bonheur. J'ai toujours pensé que j'étais un gaillard heureux, car je n'ai jamais posé un piège sans prendre quelque chose. Mais ce n'était pas un piège, c'était un commencement d'incendie au moulin de Torry, que j'ai réussi à éteindre à force d'eau. Sans cela, il aurait enflammé l'huile, et le monsieur m'a donné 10 sovereigns. Il me les a donnés lui-même la semaine dernière. Et il a commencé par dire que j'étais un individu actif, je le savais déjà. Puis ensuite, a sorti les 10 sovereigns, et c'était quelque chose de nouveau. Les voilà tous, excepté un. Ici, Bob vida le sac de toile sur la table. Et quand je l'éteins, ma tête vint à bouillir comme un chaudron, cherchant à quelle espèce de métier je pourrais me mettre, car il y en avait beaucoup auxquels j'avais rêvé. Quant au bateau, j'en suis tout à fait fatigué. Il fait paraître les journées aussi longues que les boyaux de porc. Je voulais d'abord avoir des furets et des chiens, être un preneur de rats. Puis je me dis que j'aimerais un genre de vie plus relevé, quelque chose de plus nouveau, car je connais à fond la chasse aux rats. J'ai pensé et repensé jusqu'à ce que je me sois décidé à être colporteur, car ce sont de fins matois les colporteurs. Je mettrai les choses les plus légères possibles dans ma balle, et il y a là pour un individu l'emploi de sa langue, qui n'a rien à faire ni avec les rats ni avec les bateaux. Je pourrai parcourir le pays en long et en large, amorcer les femmes par mon discours, et prendre mon dîner chaud au cabaret. Ma foi, ce serait une charmante vie. Bob s'arrêta et dit alors d'un ton de défi décidé, et comme tournant résolument le dos à la peinture de ce paradis, « Mais je ne m'en soucie plus, pas le moins du monde. J'ai changé un des sovereigns afin d'acheter à ma mère une oie pour son dîner, puis une veste de peluche bleue et un chapeau de peau de baleine, car si je voulais être colporteur, je voulais l'être d'une manière respectable. Mais je ne m'en soucie plus, pas d'un iota. Ma tête n'est pas un navet, j'aurai peut-être la chance d'éteindre, avant peu encore, un incendie. Je suis un individu à bonne chance. Aussi, je vous prierai de prendre ces 9 sovereigns, monsieur Tom, et de vous remonter avec, de quelque manière, s'il est vrai que le maître soit écrasé. Ils n'iront peut-être pas bien loin, mais ils pourront vous aider. » Tom fut assez vivement touché pour oublier sa fierté et ses soupçons. « Vous êtes un bien bon garçon, Bob, » dit-il en rougissant, et avec ce léger tremblement dans la voix qui donnait un certain charme même à sa fierté et à sa sévérité. « Et je ne vous oublierai pas, quoique je ne vous ai pas reconnu ce soir. Mais je ne puis accepter les 9 sovereigns. Ce serait prendre votre petite fortune, qui ne serait pas de grande utilité pour nous. »« Vraiment, monsieur Tom ?» dit Bob d'un air de regret. « Allons, ne dites pas ça, parce que vous pensez que j'en ai besoin. Je ne suis pas pauvre. » Ma mère gagne un joli petit salaire en ramassant des plumes et autre chose. Et si elle ne mange que du pain et de l'eau, cela se tourne en graisse. J'ai d'ailleurs si bonne chance que je me doute que vous n'êtes pas aussi heureux, monsieur Tom. Le vieux maître ne l'est pas, en tout cas. Et ainsi, vous pourriez prendre un peu de mon bonheur, et il n'y aurait point de mal. Parbleu, j'ai un jour trouvé un jambon dans la rivière. Il était tombé de l'un de ces bâtiments hollandais à poupe ronde, j'en suis sûr. « Allons, faites mieux, monsieur Tom, en faveur de l'ancienne connaissance. Autrement, je pourrais croire que vous me gardez rancune. » Bob avança de nouveau ses sovereigns. Mais avant que Tom pût parler, Maggie, joignant les mains et regardant Bob d'un air de repentir, dit « Oh, je suis si fâché, Bob. Je n'ai jamais cru que vous fussiez si bon. En vérité, je crois que vous êtes la meilleure personne du monde. » Bob ne s'était point douté de l'opinion injurieuse dont Maggie faisait hautement acte de pénitence. Mais il sourit de plaisir à ce bel éloge, surtout de la part d'une jeune fille qui, ainsi qu'il le raconta le soir à sa mère, avaient des yeux si singuliers qu'ils avaient en quelque sorte le pouvoir de lui faire se sentir on ne sait quoi. « Non, vraiment, Bob, je ne puis les prendre, » dit Tom. « Mais ne pensez pas que j'apprécie moins votre bonté, parce que je les refuse. Je désire ne rien accepter de personne, mais faire mon chemin par moi-même. Et ces souverains ne m'aideraient pas beaucoup, ils ne le pourraient en vérité si je les prenais. Laissez-moi vous serrer la main à la place. » Tom tendit alors sa main rosée, et Bob y plaça aussitôt sa main dure et calleuse. « Je vais remettre les souverains dans le sac, » dit Maggie, « et vous reviendrez nous voir quand vous aurez acheté votre balle, Bob. » « C'est comme si j'étais venu apporter une chose curieuse, rien que pour vous la montrer, » dit Bob, l'air mécontent, pendant que Maggie lui tendait le sac, que de les remporter ainsi. « Je suis bien un peu blagueur, vous savez, mais pas de cette force-là. C'est seulement quand un individu est un mauvais coquin ou un grand lâche que j'aime à m'en moquer un peu, voilà tout. Alors ne vous laissez pas entraîner à faire quelque mauvais tour, Bob, » dit Tom. « Autrement, vous vous feriez déporter quelque jour. » « Non, non, pas moi, monsieur Tom, » dit Bob, avec un air de gaie confiance. « Il n'y a point de loi contre les piqûres de mouches. Que je m'amuse ou non d'un imbécile de temps à autre, il n'en sera pas plus sot pour cela. Mais pourtant, prenez un souverain pour acheter quelque chose, pour vous et pour mademoiselle, seulement comme souvenir, justement en retour de mon couteau de poche. » Tout en parlant, Bob posa le souverain et rattachait résolument son sac. Tom repoussa l'or et lui dit « Non, vraiment, Bob, je vous remercie de tout mon cœur, mais je ne puis le prendre. » Et Maggie, le tenant entre les doigts, le rendit à Bob et lui dit d'un ton plus persuasif « Pas à présent, mais peut-être une autre fois. Si jamais Tom ou mon père ont besoin d'un secours que vous puissiez leur donner, nous vous le ferons savoir, n'est-ce pas, Tom? N'aimeriez-vous pas que nous comptions sur vous, comme sur un ami auquel nous puissions nous adresser, Bob ?» « Oui, miss, et je vous remercie, » dit-il en reprenant l'argent à regret. « C'est ce que j'aimerais. Tout ce qui pourrait vous plaire. Je vous souhaite le bonsoir, miss, et bonne chance, monsieur Tom, et je vous remercie de m'avoir touché la main, quoique vous n'ayez pas voulu prendre l'argent. » Kezia, qui venait demander si elle ne pouvait pas apporter le thé, parce que les rôtis devenaient durs comme de la brique, arrêta le flux des paroles de Bob et hâta ses adieux.